Chapitre 3. Son père et sa belle-mère, assis au fond de la petite chambre grise qui donnait sur le balcon, l'attendaient. Enfin, exclama la belle-mère, nous languissions d'aller nous coucher, mais tu n'avais dit bonsoir à personne.
Je vous l'aurais dit demain matin, fit-il gaiement.
Antoine, Antoine, murmura-t-elle en hochant la tête, comme étonnée qu'on pût traiter à la légère un sujet aussi grave. Madame Jacquier était une petite femme d'un aspect molle et arrondi, lisse et blanche comme un satin, et l'air perpétuellement éploré. On la trouvait plus souvent assise que debout, plus souvent encore allongée sur son canapé. Elle réclamait sans cesse de petits services et d'un ton douloureux, comme un peu choqué qu'on n'eût pas pensé à les lui rendre plus tôt. Son mari, par une vieille habitude inquiète qui était une des formes de l'expiation, suivait tous ses mouvements, les prévenait quand il pouvait. Rien qu'au geste de cette petite main blanche et grasse, qui ne prenait pas toujours la peine de se soulever, on devinait des années de tyrannie indolente, on devinait une flasque nature, mais tenace dans sa domination sur ces deux hommes qu'une servitude étrange tenait liés devant elle.
Baisse un peu la bajour de la lampe, Antoine. Tu sais que la flamme me fatigue les yeux. Assez, assez. Nous n'y verrons plus clair maintenant. Remonte-le d'une ligne ou deux. Il m'est impossible de croire, Antoine, que tu aies passé tout ce temps chez ces personnes étranges.
Étranges ?
J'étais derrière ma jalousie, je les ai vus se laver les mains à la fontaine.
Vous m'y avez vu aussi ?
Assurément, quelle turbulence, quels éclats de rire ! Et ce savon, j'ai voulu appeler ton père, mais il est arrivé trop tard. « Ah, je crains, mon cher ami, que tu n'aies là de bien drôles de locataires. Mais tu les as choisis. Ce vieux homme et cette dame extraordinaire t'inspiraient confiance. »
La dame, moins peut-être que l'excellent vieux, fit M. Jacquier, penchant sa longue taille maigre vers le fauteuil où s'arrondissait Mme Jacquier. « Je connais Daniel Beausire, il connaissait mon père. » C'est la crème des braves gens que ces deux frères, bien que l'autre passe pour grincheux. J'espère, Zéline, que tu n'auras pas d'ennui avec ces dames. Comme les deux maisons sont entièrement séparées, tu pourras ignorer tes voisines si tu veux.
Mais les convenances, fit-elle plaintivement. Antoine, j'ai déjà discuté ce sujet avec ton père.
Antoine, répéta-t-elle en haussant un peu la voix. Tu n'es pas du tout à la conversation.
La nuit est si belle que j'avais envie de m'asseoir sur le balcon, répondit Antoine, attiré vers la porte ouverte par un bruit de voix jeune et par des lueurs glissantes qui se promenaient dans le jardin voisin.
Trois ou quatre jeunes filles, des rires, quelques folies, et les parents sont mis de côté, soupira la belle-mère.
On les trouve ennuyeux. Si tu avais un peu d'affection pour moi, Antoine, tu fermerais cette porte, il me vient un petit souffle d'air froid.
Antoine ferma la porte et se rapprocha de son père. Comme il passait près d'elle, Madame Jacquier essaya de l'attirer en lui posant sur le bras sa main grassouillette.
« Mon cher Antoine, mon grand-fils, dit-elle tendrement.
Il fronça le sourcil et se dégagea.
N'êtes-vous pas, vous deux, tout ce que je possède au monde ?
Poursuivit-elle d'une voix où tremblait quelque égoïste attendrissement sur elle-même.
Un nouveau nœud à la corde, murmura Antoine, saisi tout à coup d'une sorte de fureur impuissante.
Et ses yeux, pleins de gaieté tout à l'heure, se troublèrent d'un remous de colère.
Assieds-toi près de ta mère, puisque ça lui fait plaisir, fit M. Jacquier presque durement.
Il traitait son fils comme il se fût traité lui-même. L'obligation de rendre à cette femme, en menu monnaie de sacrifices quotidiens, son bien le meilleur dont il l'avait privé, il ne voyait que cela. Et chaque jour, de quelque manière détournée, elle leur remettait cette obligation sur la conscience, ne laissant jamais se relâcher ce lien. Antoine s'assit près de sa belle-mère. Il était depuis des années formé à ce genre d'obéissance.
« Voilà comment je vous aime !» fit-elle d'un ton plaintivement satisfait, se renversant dans son fauteuil et étendant ses deux mains blanches vers ses deux esclaves.
« Antoine, baisse l'abat-jour. Quand je me renverse, j'ai de nouveau la flamme dans les yeux. « Oui, c'est ainsi que je vous aime, mon cher mari d'un côté, mon cher fils de l'autre. Je suis un lierre, moi, vous savez, j'ai besoin d'appui. Si j'avais dû vivre seule, je serais morte. Oh, bien certainement, je serais morte. Antoine, te souviens-tu qu'à 7 ans, tu étais déjà mon petit chevalier ?»«
Je m'en souviens, » répondit-il. Il pensa à toutes les stations qu'il avait faites pour elle, devant les guichets de gare encombrés, lui, enfant timide, lent aux chiffres, à peine assez grand pour atteindre à la planche où on lui alignait sa monnaie avec ses billets. Dans la salle d'attente, sa belle-mère, gracieusement dolente au milieu de ses menus bagages, expliquait à quelques voyageurs sympathiques qu'elle n'avait jamais pu s'accoutumer à prendre elle-même un billet. Ces gens qui vous coudoient au guichet et la monnaie qu'il faut compter si rapidement, et puis de longues stations debout pour une femme de santé délicate.
Ah, te voici, mon pauvre Antoine. J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. As-tu bien ton compte, au moins ?
Elle lui mettait tous les paquets dans les mains et il la suivait de son mieux à travers la foule. Oui, il se souvenait très bien d'avoir été son petit chevalier.
Maintenant, poursuivit-elle, il faut résoudre la question. « Antoine, me conseilles-tu d'aller rendre visite à Madame Beausire, ou bien est-ce à moi de l'attendre ?»
Il serait plus aimable, sans doute, d'aller la voir dans quelques jours, quand son appartement sera présentable.
« L'affaire n'est pas là. Quel est l'usage ? Pour moi, qui mets à peine le pied hors de la maison, qui ne fait presque pas de visite, je connais très mal l'étiquette. Si ma tante Anne était encore de ce monde, c'est elle qui connaissait l'étiquette. J'ai peur de commettre une bévue.
Ce serait une prévenance aimable, au contraire. D'ailleurs, Madame Beausire paraît être si absolument simple et sans façon.
Raison de plus pour tenir de mon côté au décorum. Cher ami, notre fils ne me tire pas du tout d'embarras, comme tu vois. On dirait même que cette question ne l'intéresse pas.
Antoine savait que sa belle-mère n'aimait rien autant que de discuter à perte de vue sur des babioles, mais ce soir, ennuyé, excédé, il était moins que jamais enclin à lui faire ce plaisir.
« Ta mère désire ton avis, » fit M. Jacquier.
« Ma belle-mère sait mieux que moi ce qui lui convient, » répondit Antoine. Et cette persistance de l'un à dire « ta mère », de l'autre à répondre « ma belle-mère », résumez la situation. Le père soupira profondément. Madame Jacquier prit un air victimisé et le mari, aussitôt, saisit la main de sa femme, la caressa comme pour adoucir l'injure. Antoine sortit sur le balcon dont il enjamba la balustrade et, par un chemin dont il était coutumier, d'une main se cramponnant aux découpures du pilier de bois, s'accrochant des talons aux traverses d'un vieil espalier vermoulu, il sauta dans le jardin. 100 fois, sa belle-mère s'était récriée sur son imprudence, aussi ne fut-il pas étonné d'entendre, au moment où ses pieds touchaient le sol, un bruit d'exclamation confuse sur le seuil du petit salon gris.
« Le voilà de nouveau descendu par le balcon. Il me rendra malade de frayeur. Antoine, où es-tu ? Tout est si noir que je ne t'aperçois pas. Tu t'es fait mal ?
Pas le moins du monde.
Mais j'ai entendu craquer quelque chose. J'ai cru que c'était ta jambe.
C'était l'espalier, répondit-il. Il ne put s'empêcher de rire et de se dire en même temps que les absurdités de Madame Beausire étaient plus gaies que celles de sa belle-mère. Il s'en alla jusqu'à la haie, au coin de laquelle était un petit banc. Il s'y assit, les coudes sur les genoux, mais bientôt il étouffa dans l'espace trop étroit, en face de cette muraille noire, trouée par la baie lumineuse de la chambre, que ses yeux pénétraient jusqu'au fond. Il voyait la lampe, son abat-jour de soie verte et de dentelle retombante.
Il voyait au-dessus, contre la boiserie gris clair, ce cadre doré, ovale, qui laborait de tout son être, le portrait de l'enfant mort que sa belle-mère lui montrait autrefois en lui disant « ton petit frère » par sentimentalité pure, car il n'était point son petit frère. Pourquoi ce portrait restait-il là, comme une écharde dans leur chair? Craignait-on que son père n'oubliât l'irréparable passé? Il y avait des moments où Antoine se prenait à haïr sa belle-mère, cette femme molle et blanche, cette parasite cramponnée à eux. Un lierre, comme elle le disait? Non, mais plutôt... En lui-même s'esquissait le mot très gros et mélodramatique de vampire, dont il aurait eu honte et horreur s'il l'avait prononcé à haute voix. Ne suçait-elle pas depuis des années la meilleure sève de leurs existences? Qu'avait-elle fait de son père? Un vieillard épuisé par le remords que soigneusement elle tenait ouvert comme un cautère. De lui-même, un découragé sans avenir. Et pas d'issue, pas d'issue. Il se leva d'un bond. Brusquement, il écarta les branches de la haie, minces dans cet angle. Il passa, et le grand pré fauché s'étendit devant lui, tout noir sous le ciel transparent. Si, du moins, il avait pu comprendre sa belle-mère. Où, chez elle, cessait l'égoïsme. Son affection pour son mari et son fils ressemblait à une strangulation. Ses exigences leur ôtaient l'air respirable. Ce qu'il lui fallait, c'était deux hommes pliés à ses volontés, toujours sous sa main. Elle les aimait, oui, parfois elle avait un vrai cri du cœur, mais que ses tendresses étaient puériles, amollissantes, quand encore elle ne sonnait pas faux. Oh, la platitude à laquelle elle réduisait toute chose! Tout ce qu'elle touchait devenait gris et banal et rétréci. Pourtant, elle les aimait. L'antipathie qu'Antoine ne pouvait plus cacher la faisait souffrir. Arrivé au bout du champ, il s'assit sur la borne blanche vaguement lumineuse dans le noir. Il regarda autour de lui et son cœur se serra. Les grandes montagnes lointaines étaient si paisibles qu'il envia cette nature sans âme pour souffrir. Quelques lumières toutes petites tremblotaient sur les pentes sombres. Il aurait voulu les éteindre, oublier ces maisons où l'on peinait, ces chemins blancs courant vers la frontière de France et qui, le jour, l'attiraient comme des fils magnétiques. Oh, que l'obscurité était rafraîchissante! Peu à peu, il s'apaisa. Ses accès de troubles désespérés, quand il en sortait, lui paraissaient des accès de folie, dont la cause s'effaçait dans un vague inquiétant, comme le brouillard où quelque ennemi vient de disparaître. Pourquoi cet accablement? Se demandait-il. Ma vie est supportable, j'ai un chez moi, je travaille. Et toutes sortes de figures surgirent autour de lui, figures d'anciens compagnons ou d'amis actuels, les uns précocement mariés, chargés déjà du souci d'une famille, d'autres tristement désœuvrés par la crise industrielle, par les grèves, et traînant leur lourd ennui du coin de rue en coin de rue. Un autre, son camarade de plusieurs hivers au cours professionnel de dessin, et qu'il avait visité à l'hôpital, souffrant cruellement d'un mal grave à la main. Avec lequel d'entre eux aurait-il échangé son sort? Mais sa nature n'était pas de celle qui trouve consolation dans le malheur d'autrui. Au contraire, une tristesse plus noire l'enveloppa. Il pensa à sa mère, morte si jeune, belle vie si tendre, vite fauchée. Et son père, n'était-il pas un arbre sec, dont le tronc mort survivait à la sève, au feuillage, à tout ce qui rend l'arbre heureux d'occuper le sol? Il aurait pu devenir un artiste, cet humble maître de dessin au dos courbé, mais le fardeau de l'existence l'avait toujours retenu dans les bas sentiers. Ainsi donc, si l'on n'était pas tranché dans sa fleur, c'était pour être impitoyablement mutilé, pour être rabaissé platement et éteint dans tous ses enthousiasmes. Tous les jeunes cœurs ardents savent que la passion de vivre a d'étonnants extrêmes et qu'elle les jette parfois là de chercher une vie pleine dans le désir de la mort. Antoine laissa tomber sa tête sur ses bras. N'eût-il pas mieux valu pour lui d'être mort tout petit, au milieu de ce grand tourbillonnement d'eau dont il avait encore l'horrible bruit dans les oreilles, et que l'autre enfant eût vécu à sa place? Depuis qu'il savait, mille fois ses pensées avaient erré autour de cette tragique scène dont sa mémoire gardait quelques détails. Il se souvenait de l'instant où lui et l'autre petit, qui portait un grand chapeau blanc, étaient entrés dans ce bateau défendu qui les tentait. L'autre enfant, le petit garçon de la dame en noir, qui séjournait dans la même pension qu'eux, avait dit « Allons sur l'eau !» Et ils étaient allés sur l'eau. Ils se souvenaient d'avoir vu cette eau bleue s'élargir immensément autour d'eux, comme si elle montait et leur cachait le bord. Alors il avait eu peur, l'autre enfant aussi. Il s'était jeté les bras en avant, comme pour s'accrocher à ce rivage qui s'en allait, et le petit au grand chapeau, à genoux sur le banc, avait comme lui agité ses bras, la moitié du corps en dehors du bateau. Quelque chose avait tourné sous leurs pieds, un grand bouillonnement avait rempli sa tête. Il avait fait « Papa !» Mais ce bouillonnement lui était entré dans la bouche. Et il lui semblait que l'instant d'après, comme dans les rêves, son père s'était marié avec la dame en noir. La triste confession que 9 ans plus tard, comme il entrait dans sa 15e année, il avait dû entendre relier ses lambeaux de souvenirs. Était-il donc bien indispensable que son père la lui eût fait subir, cette confession ? Qu'il se la fût imposé à lui-même, pauvre père qui s'imaginait n'avoir jamais assez expié. « Antoine, c'est bien toi, n'est-ce pas ?» demanda une voix dans l'ombre. « Je pensais que tu ne serais pas allé très loin. Ta mère t'envoie la clé afin que tu puisses rentrer quand tu voudras. Nous allons dormir, la bonne est déjà couchée. » Antoine savait fort bien que cette clé ne lui était point envoyée par sa belle-mère. Il y avait là une de ces petites fictions puériles dans lesquelles son père se complaisait pour rendre les rapports moins tendus, pour conserver à Antoine quelque illusion de liberté. Non, la tyrannie de Madame Jacquier n'avait pas de ces indulgences. En ce qui concernait la clé spécialement, Antoine, à 22 ans, se voyait tenu dans une dépendance qu'il trouvait horriblement humiliante et qu'il n'eût jamais osé avouer à ses amis. « À quoi penses-tu, Antoine, tout seul dans ce champ ?» poursuivit le père. « Est-ce à nos joyeuses voisines ?»« Je les avais oubliées, » répondit-il, se levant et prenant le bras de son père.